Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Diarra Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Priorité Santé. Nous passons un tiers de notre vie au lit. Pour certains, c'est un plaisir, pour d'autres, un cauchemar. Une chose est sûre, pour tous, le sommeil est un besoin. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé, baisse de la vigilance, difficultés d'apprentissage, surpoids et bien d'autres choses. Et pendant ce sommeil, eh bien, il arrive qu'on rêve. Tenez-vous bien, des études estiment qu'un individu rêve en moyenne 100 minutes, soit 1h40 chaque nuit. Ainsi, une personne de 60 ans a passé environ 5 année de sa vie à rêver et au total 20 à dormir. Très concret ou très abstrait, vous n'échappez pas aux rêves. Rêver est une activité nocturne courante et quotidienne quasiment pour tous. Cette production du cerveau durant notre sommeil nous intrigue tant elle garde de mystères. Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l'on rêve? Peut-on contrôler le contenu de nos songes? Qu'est-ce que bien dormir? Quelle est l'importance du sommeil? Eh bien, élément de réponse aux côtés du docteur Lemoine, auteur de l'ouvrage 20 milieux sous les rêves, une approche inédite des états modifiés de conscience aux éditions Robert Laffont. Bonjour docteur Lemoine. Il est aussi psychiatre spécialiste du sommeil, directeur médical international du groupe Clinéapsy et professeur visitant à la faculté de médecine de Pékin. Et puis en ligne du Burkina Faso, nous retrouverons le professeur Aruna Ouedraogo, chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. En fin d'émission, nous parlons du cancer des testicules à l'occasion de l'opération Movember qui a lieu chaque année afin de sensibiliser au cancer des testicules et de la prostate, notamment à Stéphane Beaumont, ambassadeur de la communauté Movember en France, nous en dira plus. N'hésitez pas à nous appeler. Le numéro de Priorité Santé 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Patrick Lemoine, vous avez rédigé un livre entier sur les rêves. Alors, première question, toute simple, pourquoi rêve-t-on?
Alors, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit, personne n'en sait rien. On disait même que le rêve est une fonction physiologique qui est veuve de son utilité. On ne savait pas du tout. Et puis maintenant, les choses avancent et on commence à savoir pourquoi. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que certains patients, tout le monde rêve, hein, toutes les nuits, et comme vous l'avez dit, on passe 5 ans de sa vie à rêver, et beaucoup plus quand on est dans le ventre de sa maman, puisqu'on passe les 2/3 de sa vie fœtale à rêver, ce qui est quand même considérable, avec des rêves probablement visuels, auditifs, gustatifs, puisque le liquide du terrain prend le goût des repas des mères. Mais maintenant, on sait quand même que le rêve, ça sert avant tout à la mémoire. Chaque fois que vous rêvez toutes les nuits, eh bien, on trie les souvenirs intéressants et pas intéressants. Donc, on vire 99,99% de ce qu'on fait dans la journée. Et après, on imprime, on solidifie, on stocke ces souvenirs. Ça sert aussi probablement à la créativité. Par exemple, Einstein, la relativité, c'est en rêvant. C'est un rêve qui lui a donné la clé. Paul McCartney, Yesterday, c'est en rêvant qu'il l'a fait. Newton aussi, c'est en rêvant qu'il a trouvé la théorie d'attraction universelle, etc. Donc, et moi-même, très modestement, alors que je ne connaissais pas ma table de multiplication en CE2, j'ai dormi toute une nuit et le matin, je la savais par cœur.
Ah oui,
et je ne l'ai jamais oublié.
Et vous débutez d'ailleurs le livre avec cette anecdote sympathique lors de votre enfance. Bon, je ne vais pas spoiler le livre, hein, mais peut-être que de nombreux auditeurs vont aussi se retrouver dans cette histoire un peu traumatisante où le professeur de maths
j'avais une peur bleue.
et les tables de multiplication. Racontez-nous pourquoi ce livre démarre avec cette anecdote.
Eh bien parce que justement, lorsque l'éditeur m'a mis au défi de parler du rêve, moi qui n'avais jamais travaillé sur le rêve, je me suis dit, mais au fond, à quoi ça sert? Parce que faire un livre, si ça sert à rien, c'est pas très intéressant. Et là, je me suis rappelé cette anecdote, effectivement, où mort de trouille un dimanche soir, alors qu'il y avait une interro le lendemain et que j'avais un prof hyper sévère. Je me suis couché très anxieux.
Et comme par magie.
Et le lendemain matin, oui, miracle, magie. Je savais tout par cœur. Et aujourd'hui, je suis incollable sur l'état de mes divulgations. C'est vraiment gravé dans le marbre de mes neurones. Ça sert aussi quand même le rêve à stabiliser les émotions, probablement. Mais surtout, comme c'est un état modifié de conscience, finalement proche du chamanisme, c'est une transe endormie, le rêve, eh bien, je crois que le rêve sert avant tout à chercher des solutions.
Vous parlez justement de ces états modifiés de conscience. Votre livre est sous-titré « Approche inédite des états modifiés de conscience ». Comment on pourrait les définir, ces EMC ?
C'est des moments où on est hors de soi, où on n'est plus dans son corps, où on part ailleurs. Donc si on est chaman, on va dans le monde des esprits. Si on est psychanalyste, on va dans l'inconscient. Si on est neuroscientifique comme moi, on va dans les réseaux neuronaux affectifs. Mais c'est la même chose, en fait. C'est juste une question de culture. On n'appelle pas par le même nom des phénomènes exactement comparables. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, aussi bien le chaman que le psychanalyste, quand ils partent dans ces autres contrées, le derviche tourneur, quand il se met en transe avec sa danse, lorsqu'on fait sa prière de manière répétitive, lorsqu'on fait une méditation, lorsqu'on a un orgasme, lorsqu'on a une expérience près de la mort.
C'est un peu de la folie.
Oui, mais c'est une folie, on ne perd pas le contrôle. C'est la différence justement de la folie. Je me suis formé à la transe avec Corinne Sombrin. C'est génial parce qu'en fait, c'est des transes de possession. Donc moi, je suis devenu en toute modestie un grizzly. Mais je savais qu'à n'importe quel moment, je pouvais l'interrompre. Je ne perdais jamais le contrôle. Et c'était extrêmement agréable. Contrairement à un autre état modifié de conscience qui est la dissociation, qui est pathologique. Et là, c'est l'horreur. Puisque c'est des personnes qui ont été traumatisées, violentées, violées, incestuées. Et qui, toute leur vie, jusqu'à ce qu'on les ait traités, font des dissociations, c'est-à-dire comme des trans, mais horribles, pénibles, elles ne savent pas quand ça démarre, elles ne savent pas combien de temps ça va durer, elles ne savent pas quand ça va reprendre. Et elles font tout pour éviter, et malheureusement, elles n'y arrivent pas. Donc tous ces états, en fait, c'est des tentatives de trouver de l'information. Ça ne marche pas dans les dissociations, ça marche dans la transe, ça marche dans, je ne sais pas, la psychanalyse, l'extase mystique. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Dominique, c'était des gens qui faisaient des extases, dans les textes très proches des orgasmes d'ailleurs, où ils allaient chercher auprès de Dieu la réponse.
Et pour en revenir un petit peu aux rêves, là on a parlé un petit peu de tout ce qui est transe et de ces états modifiés de conscience, vous dites que chaque nuit on rêve 3-4 fois pendant des cycles de 20 minutes, voilà. Donc on va essayer de définir ensemble ce rêve. Bon, si j'ouvre le dictionnaire Larousse, sa définition c'est production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée, ou alors c'est fait de laisser aller librement son imagination. Quelle est votre définition ?
Alors, je suis assez proche de la première, parce que la deuxième, c'est la rêverie, c'est pas vraiment le rêve. Hein. Quand on rêvasse en étant éveillé, c'est pas du rêve. Alors, quand on est dans le sommeil comme moi, on sait que les rêves, en principe, pour l'essentiel, se produisent dans un état de sommeil particulier, qui s'appelle le sommeil paradoxal, où on est complètement paralysé, sourd, aveugle, totalement incapable de se défendre. C'est un moment très vulnérable. Et donc, dans ce moment-là, eh bien, on a effectivement des productions délirantes, hallucinatoires, auxquelles on croit et qu'on mémorise uniquement si on s'est réveillé 3 minutes juste à la fin ou en cours de rêve.
On va parler justement de cette mémoire des rêves, mais juste avant, j'ai lu que selon une étude, un nouveau-né passe 50 à 60% de son temps à rêver, confirmé, et même le fœtus de 6 mois rêve, ouais. Voilà. Il y a pas mal de théories de chercheurs à ce sujet, mais dites-nous combien de temps dure un rêve ? Parce qu'on a l'impression qu'on a rêvé en fait toute la nuit.
Alors c'est un grand débat, c'est un grand débat ça, parce qu'effectivement, la plupart des gens, et moi j'en fais partie, pensent que le rêve c'est le temps du sommeil paradoxal, donc ça dure 20 minutes, on rêve pendant 20 minutes. Et puis il y avait des chercheurs anciens, et actuellement Jean-Paul Tassin défend cette thèse, qui est de dire qu'en fait, on a des espèces d'images pendant tout le sommeil paradoxal, et au moment où on se réveille, tac, on construit le scénario, et donc le rêve dure une fraction de seconde. Je pense que c'est faux, mais tout vient d'une histoire de rêve de guillotine, qui est très amusante, où c'est Alfred Maury donc, qui raconte ça. Un noble est poursuivi pendant la Révolution, il est évidemment menacé d'être emprisonné et guillotiné, et il vit tout ça, il vit son procès, Fouquier-Tinville qui requiert, il monte dans la charrette, il est emmené à l'échafaud, il est couché sur la guillotine, et tac, réveillé, épouvantable. avec une douleur sur la nuque, et il s'aperçoit que le bois de lit lui était tombé sur la nuque. D'où l'idée qu'en fait, tout son rêve a été bâti au moment précis où le bois de lit lui était tombé dessus. Et en fait, je crois qu'il devait tout le temps rêver.
C'est pas un cauchemar, ça ?
Ah si, c'est un cauchemar, mais un cauchemar,
c'est un
mauvais
rêve. C'est un cauchemar, c'est pareil.
D'ailleurs, la plupart des rêves sont quand même désagréables, au moins les trois quarts.
Non, mais des fois, on rêve d'être en promenade à la mer.
Ah, mais des fois, c'est sympa.
Voilà, des fois, c'est sympa. Hein.
Mais c'est plutôt l'exception. Vu que ça sert à résoudre des problèmes, en général, quand on veut résoudre un problème, c'est quand même pas très sympa.
Et sans avoir lu le livre, moi je m'attendais à cette phrase, hein, la nuit porte conseil, oui. On l'entend souvent,
oui.
Mais alors appliquer, ça c'est une autre histoire pour moi, parce que le rêve nous susurre ce à quoi on pense en fait toute la journée, c'est ça ? Ça nous donne des indications ?
Ah non, je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que vraiment, comme je vous le disais, comme dans la transe, quand on rêve, on va essayer de trouver une explication, de trouver une information. On va trouver un sens aux choses. Donc ça porte conseil parce que ça nous apporte des informations qui viennent de cette partie du cerveau à laquelle on n'a pas bien accès, qui est l'inconscient, qui est la part affective de nous-mêmes. Et il y a quelques brèches qui permettent de communiquer entre l'affectif et le rationnel, comme l'intuition, le lapsus, le rêve, l'acte manqué. Mais globalement, on n'a pas trop accès. On a vraiment deux mondes en nous qui coexistent, qui de temps en temps dialoguent, mais pas si souvent. Sauf si on est justement dans une culture mongole ou même asiatique, où il y a quand même beaucoup plus de va-et-vient entre l'affectif et le rationnel. Mais l'Occident a complètement oublié depuis que les Romains ont massacré les druides.
Ça fait bien longtemps. Docteur Patrick Lemoine, si vous le permettez, on va à présent recueillir le témoignage d'Elissa qui va nous parler de sa relation avec les rêves.
J'ai commencé à écrire mes rêves sur un cahier il y a quelques années maintenant. Et je me suis rendu compte que je rêvais toutes les nuits. Et le matin, j'avais encore le souvenir très prégnant de ces rêves. Et j'ai donc décidé de les consigner pour ensuite les relire quelques mois après, quelques années plus tard. Et donc tous les matins, je m'astreins à 5-10 minutes durant lesquelles je note mes rêves et mes sensations, mes émotions, voilà, ou mes réflexions même.
Quand vous dites que vous écrivez justement ces rêves, c'est à quel moment de la nuit ? C'est dès que vous vous réveillez le matin ou alors c'est en plein milieu de la nuit et puis vous arrivez à restituer ces rêves ?
Alors c'est souvent le matin. Lorsque je me lève. Et sinon, parfois, lorsqu'il y a des rêves qui me réveillent la nuit, je les note sur mon portable. J'ai une application, en tout cas, je prends une note où j'ai tous mes rêves consignés par date. Les rêves les plus... ceux qui me réveillent et qui m'ôtent de mon sommeil et que je juge plus important que les autres.
Ces rêves plus importants que les autres, ce sont des cauchemars ou alors ce sont des rêves qui ont un impact peut-être dans votre vie ?
Ce sont des rêves qui ont des messages très importants, que je juge en tout cas, qui ont une portée et qui sont récurrents d'ailleurs. Je rêve souvent de voitures que je dois conduire, mais j'ai peur et je sais que c'est lié à mon envie de liberté. Et en ce moment, je traverse une période difficile au travail. Et je rêve beaucoup du travail, où je rêve que je refuse de passer mon évaluation annuelle, ou que je vais voir le PDG et je lui écris sur un cahier ma valeur. Donc ma valeur financière. Voilà, c'est des rêves qui me réveillent la nuit et qui empiètent sur mon sommeil. Et donc je pense que je me dis des choses que je ne veux pas forcément ou dont j'ai conscience, mais que je ne veux pas entendre la journée ou que je ne suis pas prête à verbaliser la journée.
Et est-ce qu'il vous arrive de faire des rêves prémonitoires ?
Oui, ça m'est déjà arrivé à deux reprises et ça a été toujours lié, je rigole, parce que ça a toujours été lié à des histoires amoureuses. alors une première fois, j'avais un petit ami qui me donnait plus de nouvelles. Et à l'époque, on s'écrivait des lettres, hein. C'était pas nos époques avec les smartphones, avec l'immédiateté des emails, etc. Donc ça faisait 3 semaines, j'avais pas reçu de lettres et j'ai rêvé qu'il me montrait ses deux bras cassés. Et quelques jours après, j'ai reçu un courrier dans lequel il me disait qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il avait les deux bras cassés. J'avais 20 ans, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, j'étais un peu surprise. Et puis, une autre fois, j'étais loin de mon chéri de l'époque. Et je n'avais pas de nouvelles, et je m'inquiétais, et je rêvais qu'il me disait qu'il me quittait, que c'était terminé. Et puis, bah voilà, il m'a quitté, enfin, on s'est quitté, c'était terminé. Par la suite, ça n'a pas loupé.
Et justement, ça vous apaise d'écrire ces rêves le matin ?
Oui, 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 parce que je verbalise un mal-être, déjà, ou un bien-être, parce que je lis, c'est écrit noir sur blanc, je lis des choses, et il s'agit de décrire mes émotions, que j'avais peur, que j'étais heureuse, voilà, c'est très important pour moi de pouvoir mettre des mots sur mon ressenti. Et plus j'écris mes rêves, et plus je rêve toutes les nuits, je suis un moulin à rêves.
Et Elissa, une dernière question, vous en êtes au combienième cahier actuellement, alors, de ces cahiers de rêves ?
Oh là 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 là, j'ai des cahiers, j'ai des polycopiés aussi, parce que quand je suis en déplacement, je peux pas prendre de mon cahier parce qu'il est lourd, donc j'écris sur internet, sur mes emails, je sais pas, peut-être cinquième, sixième, mais ça fait 100 pages à chaque fois.
Et vous comptez les publier un jour, alors qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces notes?
Déjà, je les relis régulièrement.
Très intéressant, oui.
Comme ça, je peux voir avec un peu de recul que mes rêves évoluent avec mon état et avec l'âge. C'est comme une autopsychanalyse, mais presque.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Patrick Lemoine, j'aimerais bien votre réaction au sujet de ce témoignage d'Elissa qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Cette fascination qu'elle a pour le rêve, évidemment, que c'est fascinant. Alors, le fait de constituer une onirothèque, puisque c'est le nom de la chose, est assez classique. Et il y a un certain nombre de personnes à travers le monde, je crois que leur corps est autour de 25 000 rêves racontés par une psychologue qui fait ça depuis qu'elle est toute petite, qui a toujours noté tous ses rêves. Et Jouvet, qui est donc l'inventeur du sommeil paradoxal, c'est un Lyonnais, parce que je suis chauvin, il avait plusieurs milliers de rêves aussi. Et lui, il essayait de trouver des règles, des fonctions. Bon, je pense que ça fait du bien, que c'est apaisant. Je crois beaucoup à la rédaction, parce que c'est une élaboration par l'écrit. Il y a un travail qui se fait, et je crois que c'est très structurant et c'est une très bonne idée. Quand elle dit, comme je raconte mes rêves, je fais plein de rêves, ça c'est vrai. Oui. À partir du moment où on décide de rêver, on rêve. On voit bien, par exemple, que les gens qui sont en psychanalyse chez un lacanien, ils vont rêver en lacanien. Ceux qui sont chez un kleinien, ils vont rêver en kleinien.
Donc le soir, on décide de rêver, on va rêver.
C'est plus ou moins conscient, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu à la commande, quand même, le rêve. Un très bon dormeur n'a aucun souvenir de rêve, parce qu'en fait, il se réveille pas. Ne pas se souvenir de ses rêves, ça veut dire qu'on rêve, qu'on dort très très bien. Donc faut pas s'en inquiéter. Alors qu'en fait, ceux qui disent « je ne rêve pas », en fait, ils rêvent autant que les autres, mais ils n'en ont pas le souvenir.
Et quand Elissa nous parle de méditation, grâce en fait à ses carnets de rêves, à ses onirothèques, c'est ça ? Ouais. Voilà, à son onirothèque. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut se soigner finalement par le rêve ?
Ah, je crois vraiment. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure qu'une des fonctions du rêve, c'est d'être un régulateur émotionnel. Le rêve permet, en apportant des solutions, en vivant des choses très intenses quand même au cours du rêve, de relativiser les choses. Et si en plus effectivement on les élabore par un écrit, c'est formidable. Et là, je crois qu'effectivement elle prend très bien soin d'elle. Je dirais pas qu'elle se soigne, elle prend soin.
Elle prend soin d'elle.
C'est encore mieux.
Et ce qui était intéressant aussi, et peut-être même étrange, je sais pas, c'est aussi avec le rêve, c'est que l'histoire a souvent un lien avec la vraie vie, puisqu'elle nous parlait voilà de son travail qui actuellement lui pose problème. Et cette question d'ailleurs, elle est dans le livre, hein, mais je vous la pose, peut-être que ça va intéresser.
99% des rêves sont des rêves très banals à propos de ce qu'on vit dans la journée.
Ça influence le contenu du rêve.
Tout à fait. En fait, comme ça sert à trier les souvenirs, par exemple, sûrement cette nuit, je vais rêver du nombre de micros qu'il y a dans le studio de façon à l'éliminer. Parce que c'est pas forcément génial pour moi dans 10 ans de me rappeler qu'il y a 6 micros dans cette salle.
Ouais, donc on peut provoquer finalement ces rêves.
Et on trie. Toutes les nuits, on rêve de choses banales, qu'on trie et qu'on élimine si c'est pas pertinent. Et tout d'un coup, tac, on garde un truc très important. En revanche, les rêves prémonitoires, c'est vrai que, c'est ce qu'on appelle un biais statistique. Parce que si...
Alors expliquez-nous, parce qu'on a justement des questions autour de ça.
Justement, elle nous raconte qu'elle rêve que son petit ami, qui lui avait pas donné de nouvelles depuis longtemps, avait les deux bras cassés. Ce qui expliquait qu'il écrivait pas, évidemment. Et il a les bras cassés. Et comme il avait les bras cassés qu'elle en avait rêvé, ben, elle s'en est souvenue. Mais en fait, si elle avait rêvé qu'il avait les bras cassés et qu'il n'avait pas eu les bras cassés, elle aurait oublié son rêve. En fait, on pense qu'on a des rêves prémonitoires parce qu'on ne retient que ceux qui se réalisent. Même histoire, celui qui va rompre avec elle, ben, il lui donne plus de nouvelles. C'est quand même l'explication la plus fréquente. Il a rompu, donc je m'en souviens, donc j'ai des rêves prémonitoires. Si cette nuit, Diarra, vous rêvez que la tour Eiffel s'est écroulée, et que ça s'est pas produit, bah, vous allez l'oublier. C'est un rêve sans importance. Mais si elle s'écroule, vous direz, ah, c'est génial, j'ai des rêves prémonitoires.
J'espère que ça va pas arriver, surtout, mais, j'espère aussi qu'on va pas décevoir des auditeurs persuadés de leurs dons, en tout cas, des prophéties révélées par des rêves, notamment dans votre livre, vous parlez des prophéties.
Il y a beaucoup de rêves prémonitoires, qui sont très cliniques. Une mère, téléphone à sa fille, elles discutent un bon moment, elles sont chacune à un bout de la planète, et la fille qui est infirmière rêve que la mère, le SAMU arrive, l'hospitalise, elle est dans le coma, et ça arrive. Et en fait, comme c'est une infirmière, elle a perçu dans la discussion des petits signes très très mineurs, très très discrets, qui ont fait que cette infirmière avait compris qu'elle couvait un truc très grave. Donc c'est des faux rêves prémonitoires, ça.
Des fois, on a vraiment le sentiment que ça, c'est un rêve prémonitoire sans aucun lien. Est-ce que vous pensez que il y a une petite chance, en tout cas.
On ne retient que ceux qui se réalisent. Ce qui fait qu'on vire tous les rêves prémonitoires qui ne se réalisent pas, on les oublie. Ce qui fait que, statistiquement, ben, on pense qu'on a des rêves prémonitoires parce qu'on a retenu que ceux-là. Que ceux qui ont marché.
On va prendre des auditeurs en ligne qui ont de nombreuses questions à nous poser.
Priorité santé sur RFI.
Cher bonjour, vous nous appelez de Guinée, en Conakry. On vous écoute.
Bonjour, comme je l'ai dit, moi, mon problème, c'est que presque toutes les nuits, je rêve, donc ça fait en sorte que j'ai presque 2 heures de sommeil par jour, parce qu'à chaque fois quand je me couche, je sursaute, dès que je me réveille, j'arrive plus à dormir, parce que je me dis, bah, encore, je vais continuer à rêver, et du coup, mon sommeil se coupe, et le problème est que la plupart, j'ai l'impression de revivre de la journée d'après ou après 2 jours comme ça, ce que j'ai rêvé. C'est-à-dire, je n'arrive pas vraiment à distinguer entre ce qui se passe la nuit quand je me couche et après ce que je vais vivre dans la journée. J'ai l'impression qu'il y a des phases, vraiment, je les ai rêvées. Comme le docteur le disait, peut-être c'est des rêves prémonitoires, mais j'arrive pas à comprendre. J'ai toujours essayé d'expliquer ce qui arrivait. Je ne dors que lorsque je prends des somnifères. Donc, j'essaie d'avoir une explication logique. J'arrive pas à comprendre pourquoi autant. J'ai l'impression que les rêves s'acharnent sur ma personne. C'est comme si elle essaie de me dire quelque chose, mais bon, j'arrive pas à trouver une explication logique par rapport à la situation. Donc, voilà.
Ben, on va réussir, on va recueillir le témoignage de Cher qui est très intéressant. Mais professeur, qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre ?
Je pense que s'il rêve autant, et s'il rêve autant sur sa vie quotidienne du jour, c'est qu'il n'a pas résolu un problème et qu'il doit essayer de résoudre son problème. Soit c'est des cauchemars et toujours le même. Ce que je conseille toujours dans ce cas-là, c'est le matin, on rédige son cauchemar et on invente un scénario de bonne fin. Je sais pas moi, les gamins qui ont des cauchemars, par exemple, dans la chambre, il y a un méchant loup qui veut les manger. Donc on demande au petit, bah, écoute, tu vas soit dessiner, si c'est pas encore écrire, soit raconter l'histoire du loup. Et puis il y a un gentil chasseur qui va arriver avec un gros fusil. Oh, c'est mon papa en plus qui va tuer le loup. Et à force de raconter des bonnes fins, le cauchemar finit par s'estomper et disparaître. Je pense que pour notre auditeur, le fait de beaucoup, beaucoup rêver dans la journée démontre qu'il a un problème dans sa vie quotidienne.
Mais pourquoi certains rêves sont récurrents ? Il a un peu expliqué.
Justement, c'est que le rêve cherche à résoudre un problème. Et tant qu'il n'est pas résolu, ben, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc il est récurrent. C'est pour ça que les gens qui ont un traumatisme, un accident, un viol, un traumatisme de guerre, je sais pas, style Bataclan, des choses comme ça, eh bien, ils le re-rêvent pour essayer de résoudre, et puis souvent c'est tellement lourd qu'ils n'y arrivent pas, et ils répètent, ils répètent.
Et Escher explique aussi qu'il est persuadé que c'est un peu la réalité, il est dans cette dualité, comment l'expliquer ?
Oui, il nous dit qu'il ne fait pas bien la différence entre le rêve et la réalité. Ça, ça peut arriver quand on se réveille juste au milieu d'un rêve ou dans la foulée, on ne sait plus bien où on est, parce que c'est vraiment un sommeil très profond dont on est difficilement tiré, et ça peut donner même des véritables confusions, ce qu'on appelle l'ivresse de sommeil. C'est pas pathologique, hein, c'est pas anormal, simplement. Moi, je crois beaucoup à la thérapie par le stylo, et je pense qu'il devrait commencer à un peu rédiger ses, mettre de l'ordre en fait dans ses rêves.
Cher, vous avez entendu le conseil du docteur Patrick Lemoine?
Je vais commencer dès aujourd'hui.
Merci pour votre témoignage.
Achetez un beau stylo.
Docteur Patrick Lemoine, on a souvent du mal à ordonner finalement ses rêves. Bien vous sûr. Racontez l'anecdote d'Hitchcock dans votre livre.
Oui.
Comment fonctionne finalement la mémoire ?
Oui, alors l'anecdote d'Hitchcock, il faut peut-être la redire. Hitchcock, une nuit, fait un rêve, il se réveille, il dit c'est vraiment le scénario le plus génial, le plus formidable.
Ça nous est tous arrivé.
Ça va être le film de toute une vie. Et le matin...
Plus rien.
Parce qu'on sait bien que si on ne note pas tout de suite un rêve, il s'évapore comme rosée au soleil.
Oui, on prend notre téléphone, on écrit, puis on n'arrive plus du tout à lire.
Et la nuit suivante, chance, à nouveau, il se réveille avec ce scénario génial. Il avait préparé un calepin avec un crayon. Il le note, très content, et le matin, dès qu'il se réveille, il se précipite pour voir ce scénario génial. Et qu'est-ce qu'il lit ? Un garçon rencontre une fille. Il était un peu déçu.
Quelle déception.
Priorité santé sur RFI.
En ligne du Burkina Faso, nous retrouvons le professeur Aruna Ouedraogo, chef de service de psychiatrie au CHU Yelgado Ouedraogo de Ouagadougou. Bonjour professeur.
Oui, bonjour madame.
Alors professeur, dites-nous, est-ce que les patients viennent vous consulter pour des problèmes liés à leurs rêves ?
Oui, bien sûr, c'est un problème qui est universel. On peut être amené à recevoir des patients parce qu'ils font des cauchemars, donc ils consistent en des rêves au cours desquels leur intégrité corporelle peut être mise en danger. Et donc ça crée en eux de l'angoisse. Bien sûr, cela peut s'intégrer dans une autre problématique globale où il y a d'autres plaintes.
Et on sait que vous vous trouvez dans un bassin culturel où les questions du bon et mauvais esprit sont présentes. Hein. Vous, médecin, vous avez une prise sur cette croyance ?
Bien, vous savez, en tant que médecin, nous sommes obligés de comprendre aussi la culture ambiante au sein de laquelle vit le patient et qui prévoit effectivement qu'il y a des rêves prémonitoires de l'avenir. Donc, en fonction du contenu du rêve, il peut-être, dans le cadre aussi de ce que les tradis praticiens ont pu dire aux patients, il peut arriver que cela aussi suscite une sorte d'angoisse supplémentaire qui nécessite aussi notre compréhension. Ça, c'est vrai, oui.
Et quand on dort, on rêve, et puis on a, en fonction du lieu de vie, on interprète différemment hein, les rêves, la plupart du temps. Et comment est faite cette interprétation au Burkina Faso ?
Alors, je n'en suis pas un très grand spécialiste, mais en gros, il faut savoir que il existe un certain nombre de sagesses populaires et également des personnes qui sont douées d'un certain nombre de pouvoirs, donc capables en fait d'interpréter, de donner une signification en fait au rêve en fonction de ce que le patient a présenté comme contenu manifeste du rêve. Il va donner un sens qui, notre point de vue de psychiatre, peut parfois aussi recouper ce que en fait la psychanalyse a déjà dit concernant justement ce problème-là. C'est-à-dire que à travers le rêve, c'est bien sûr la réalisation d'un certain nombre de désirs refoulés de la part du patient. Et donc parfois en fait les tradis praticiens parviennent à donner en fait une interprétation tout à fait cohérente, compréhensible dans la culture du patient, mais il existe parfois aussi que ce soit aussi des interprétations qui effraient le patient parce que ça peut prédire un avenir plus sombre, une menace de la part de telle ou telle personne de l'entourage. Heureusement, souvent que on arrive un peu aussi à les aider avec notre point de vue.
Professeur Haruna Ouedraogo, on a justement Gaspard qui nous appelle de Parakou au Bénin. Gaspard, bonjour.
Bonjour madame, bonjour docteur.
Alors, Gaspard, vous avez la parole, on vous écoute.
En ce qui concerne les rêves, je dirais que il n'y a pas longtemps, j'ai eu un rêve la nuit. Il y a un ami qui a fait un accident et il était le seul à être blessé. Et quelques jours après, le même ami a été agressé par des bandits. Comment cela peut se faire ainsi? Est-ce que c'est une vision, ou bien c'est un rêve, ou bien c'est...
Professeur Haruna Ouedraogo, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Gaspard sur cette question du rêve prémonitoire, là aussi?
Oui, en fait, ce sont des discours que nous entendons, en fait, très couramment, et donc, après coup, les patients viennent avec des éléments contre ce que le monsieur vient de relater tantôt, et qui donc pose la question de savoir est-ce que, en fait, le rêve prémonitoire de l'avenir existe ou pas. Alors, du point de vue, en fait, de la science, nous ne pouvons pas dire que, en fait, cela correspond à une réalité. C'est peut-être aussi une coïncidence, c'est peut-être aussi l'effet du hasard, c'est probablement aussi parce que il y a eu peut-être une sorte d'interpénétration entre, l'imagination, en fait, la réalité, le désir, et puis, la rêverie parfois, et puis souvent, vous savez que c'est pas forcément parce que, la chose s'est réalisée qu'on peut dire que son rêve a été prémonitoire. En fait, nous ne voyons pas forcément la chose de cette manière-là.
Il y a toujours une explication, comme le docteur Lemoine l'a expliqué tout à l'heure.
Ouais, on peut tout à fait rêver d'autres choses, mais si ça ne se réalise pas, je pense pas que ce soit un problème en soi.
Merci pour votre témoignage, Gaspard. On a aussi Jean de Dieu, professeur Haruna Ouedraogo, si vous voulez bien, qu'on va prendre en ligne. Jean de Dieu, bonjour.
Oui, bonjour. Au fait, quand je dormais, je faisais des rêves, et voilà, mes rêves, chaque matin, je devais... me rappeler de ces rêves-là, mais j'arrive pas à me rappeler de mes rêves. Donc, je me souvenais pas de mes rêves, au fait. Et cela, je l'ai constaté il y a 2 ans déjà.
Professeur Haruna Ouedraogo?
C'est pas un drame de ne pas se souvenir de ses rêves. On va dire que c'est tant mieux, d'ailleurs, puisque... Vous savez, on rêve une très bonne partie de la nuit. Donc, si on devait se souvenir de tout, vous voyez qu'on aurait peut-être un sommeil un peu perturbé. Donc, le fait qu'on ne se souvienne pas de tous les rêves ne doit pas considérer comme un problème en soi. Donc, je voulais rassurer l'auditeur que cela n'est à rien pathologique. Donc, il faut qu'il se rassure en ce qui concerne cet aspect.
Vous avez entendu, Jean de Dieu, pas d'inquiétude, hein, rassurez-vous. En tout cas, merci pour votre appel et salut aux auditeurs de Bangui. Professeur Haruna Ouedraogo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au sujet de ce rêve?
Oui, en fait, c'est un peu rassurer justement votre auditoire que vous voyez, le rêve est indispensable en fait à l'être humain. Alors, on peut avoir de bons rêves tout comme on peut avoir aussi des cauchemars qui peuvent être un peu impressionnants et parfois continuent très négatifs. Bon, fort heureusement que c'est pas ça en fait qui va se réaliser dans l'avenir. Tout comme aussi on peut rêver aussi comme on le dit, on peut construire des châteaux en Espagne, mais ce n'est pas parce que ça ne se réalise pas non plus que c'est dramatique. Donc vous voyez qu'il y a les deux extrêmes et donc il ne faut pas que, vous voyez, on attache une importance au cauchemar en fait qui met en danger notre propre survie quoi, au cours des rêves.
Merci beaucoup professeur pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Patrick Demoine, depuis tout à l'heure, on parle de rêve, mais pour rêver, il faut être endormi. On n'a pas encore parlé de sommeil. C'est très subjectif, hein, le sommeil, mais qu'est-ce que bien dormir ?
Alors, le grand problème, c'est qu'on ne parle jamais avec quelqu'un qui dort. Donc, on ne peut pas lui demander
s'il dort
bien.
Mais il y a des gens qui parlent pendant leur sommeil.
Certes, mais ils parlent rarement de leur sommeil. On ne peut pas interroger quelqu'un qui dort sur son sommeil. Du coup, quelqu'un qui a bien dormi, c'est quelqu'un qui est en pleine forme dans la journée. Donc, peu importe le nombre d'heures, les
horaires.
On
ne peut pas évaluer, il n'y a pas d'heures.
Si, on évalue. Alors, quand on fait un enregistrement de sommeil, sur ce qu'on appelle l'hypnogramme, bien sûr, on voit si la structure du sommeil est bonne. Mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est avoir la pêche dans la journée.
Il n'y a pas de minimum d'heures à respecter.
Si, quand même. On considère qu'en dessous de 5 heures, ça commence à poser problème. Rares sont les personnes qui ne dorment que 4 heures. Et tous ceux qui prétendent dormir que 4 heures font en réalité des micro-siestes dans la journée pour tenir le coup. Chirac racontait beaucoup qu'il faisait des micro-siestes de quelques minutes quand il était à l'arrière de sa voiture présidentielle. Et du coup, il se portait bien. Mais en principe, le noyau dur du sommeil, c'est à peu près 4 heures. Souvent, on considère que c'est entre minuit et 4 heures du matin. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Et la moyenne du temps de sommeil, c'est en gros 7h30, entre 7 et 8. Mais on peut être parfaitement en bonne santé, être un long dormeur, dormir 10 heures, en bonne santé, être un court dormeur, 5-6 heures.
Et il existe des différences.
C'est génétiquement programmé, tout ça.
C'est génétique. Ouais. Mais du coup, eh ben, en parlant de génétique, est-ce qu'il y a des différences entre les sexes, les hommes et les femmes ? Est-ce qu'ils dorment de la même manière ? Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins ?
Alors, les femmes, en moyenne, dorment 20 minutes de plus, ce qui est normal.
Parce qu'on est plus fatigué.
Non, c'est pas ça, c'est que les femmes ont un cerveau qui a beaucoup plus de connexions, qui est beaucoup plus performant, qui fonctionne mieux en réalité, mais de manière plus complexe, et donc elles ont besoin de plus longtemps pour récupérer.
Et je n'arrive pas
ça
à...
Ça va vous faire plaisir, ça.
Oui. Je n'arrive pas à bien dormir, vous avez dû l'entendre 1 million de fois,
okay,
non ?
Ok, oui. Et que oui, c'est il y a 3 plaintes principales en médecine, c'est docteur j'ai mal, docteur je suis fatigué, docteur je dors mal. Et je me suis même amusé à retrouver dans le plus ancien texte médical de l'histoire de l'humanité, qui est le code d'Hammurabi, qui a quand même 1750 ans avant Jésus-Christ, qui est conservé, c'est une stèle qui est conservée au Louvre. Et bien le seul médicament parmi les 750 remèdes qui soit resté, ben c'est l'opium, c'est-à-dire enfin le pavot, qui est quand même un somnifère, quelque chose qui fait dormir. Donc ça montre que cette plainte « je dors mal » existait déjà du temps de Babylone, entre Tigre et Euphrate.
Et quand, justement, on n'arrive pas à dormir, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Ce qui compte, c'est le retentissement dans la journée. Si je suis en pleine forme dans la journée, c'est quand même que tout va bien, j'ai dormi ce qu'il faut. Si en revanche, dans la journée, je suis pas bien, je suis déprimé, ou je développe une hypertension artérielle, ou je deviens obèse, ou que je développe un diabète, ou que j'ai des maladies immunitaires, ou des infections, c'est que je dors pas ce qu'il faut. Parce que le sommeil, ça sert à tout ça. Ça permet, si on dort pas assez, ben on sécrète mal l'insuline, on sécrète mal les hormones qui permettent de ressentir la satiété, on ne baisse pas sa tension artérielle la nuit. Donc en fait, le sommeil, c'est vital. Et il est montré que les personnes qui n'ont pas des horaires réguliers, qui en gros de se coucher et de se lever à peu près toujours à la même heure, vivent moins vieux que les personnes qui ont des horaires
donc
réguliers.
Donc ça a un impact fort aussi.
Oui. Sommeil, c'est pas de la cosmétique. Hein. C'est, je suis pas en train de vous parler de crème de beauté. Là, c'est vital, le sommeil.
Alors, il y a un terme qui m'a interpellée quand j'ai lu votre ouvrage, hallucination hypnagogique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a tous eu un peu ce rêve qu'on pense vraiment proche, voire très proche du réel. Finalement, c'est quoi ?
En fait, c'est au moment où on s'endort, juste avant... C'est hypnagogique, ou quand on se réveille, c'est hypnopompique, pardon pour ces barbarismes. Une hallucination hypnagogique, c'est donc au moment où on bascule, eh bien on peut avoir soit un kaléidoscope, soit un clic dans les oreilles, soit une espèce de fantasme assez présent. C'est tout à fait normal, hein, puisque c'est plus de la moitié des personnes peuvent avoir des hallucinations. Moi j'ai un souvenir comme ça, je rentrais d'un mariage, ça se passait dans le Charolais, donc dans la France profonde, c'était 3h du matin, je conduisais, ma femme dormait à côté de moi, et tout d'un coup j'ai donné un coup de frein, parce qu'il y avait un bébé qui traversait la route.
Ah.
Alors, à 3h du matin dans le Charolais, des bébés qui traversent la route, c'est pas fréquent. J'avais une hallucination, donc je me suis fait copieusement engueuler par ma femme et elle avait raison. Elle m'a dit, tu vas dormir.
C'est très dangereux.
Bien sûr, elle m'a dit, tu vas dormir un bon coup et puis tu vas repartir quand tu seras bien réveillé. Ce que j'ai fait, on est arrivé à bon port. Donc c'est vraiment un signe d'endormissement, comme si le rêve faisait irruption alors qu'on n'est pas tout à fait encore endormi.
Et à un moment, vous parlez du Sénégal où on parle de rap, c'est ça? Un espèce de jumeau virtuel, de quoi s'agit-il?
Le Sénégal est très intéressant parce que les tradis thérapeutes sont très actifs. Il y a la cérémonie du Ndop qui est tout à fait importante, qui peut durer d'ailleurs plus d'un mois, où lorsqu'une personne est souffrante, toute la famille, tout le groupe, tout le quartier va se réunir. Et il y a toute une enquête sur le rab, qui est cette espèce de double qui nous accompagne partout et qu'il faut essayer d'une certaine manière d'exorciser. D'où cette cérémonie où on sacrifie une vache, on se met dans les entrailles, on se purifie en groupe dans la mer. Et pour avoir vu quelques personnes qui ont bénéficié de cette cérémonie, c'est vrai que c'est très efficace parce qu'on est pris dans une espèce d'utérus de quartier où tout le monde s'occupe de vous et je pense que ça fait énormément de bien.
Et c'est pendant la nuit que se passe ce type de cérémonie d'end-up?
C'est souvent le soir, mais comme ça dure assez longtemps, en réalité c'est le jour et la nuit. C'est très très long, un end-up.
Alors, docteur Patrick Lemoine, on arrive déjà quasiment à la fin de cette émission.
Ça passe comme un rêve.
Ça passe très vite, voilà, comme un rêve, exactement. Alors, un mot de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ce qu'on s'est dit?
Rêver, c'est bien. Rêver, c'est normal. Rêver, c'est chercher une solution. Rêver, c'est être créatif. Mais ne pas rêver, c'est pas grave.
Merci infiniment, docteur Patrick Lemoine. On passe à un tout autre sujet à présent.
Priorité santé sur RFI.
La santé des hommes connaît une crise. Les hommes meurent en moyenne 6 ans plus tôt que les femmes. Le cancer de la prostate et le cancer des testicules ont un impact considérable, notamment sur leur espérance de vie. La Movember Foundation est la seule association caritative internationale se consacrant uniquement à la santé masculine afin de permettre aux hommes de mener une vie en meilleure santé. Movember et Serum ont ainsi lancé un vrai film de boule, c'est son nom, un spot de prévention contre le cancer testiculaire. On écoute.
Tous les jours, on se retrouve ici avec les gars pour jouer aux boules. On ne peut pas rigoler avec notre matériel, on doit vraiment en prendre soin, c'est vital. Alors, quand elles ne sont pas de sortie, je les garde bien au chaud à la maison. C'est essentiel de les inspecter fréquemment pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des gars qui jouent avec des boules de tailles différentes, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait rien qui cloche et qu'on ne sente pas de gêne quand on les a en main. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame.
Faites gaffe à vos boules, les gars, ça serait vraiment couillon.
Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel.
Et on est justement en ligne avec Stéphane Beaumont. Stéphane Beaumont est ambassadeur de la communauté Movember en France. Monsieur Beaumont, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, la fondation Movember souhaite sensibiliser la population au sujet des maladies masculines dont on ne parle jamais assez. Vous avez choisi de le faire à travers un spot publicitaire. Parlez-nous justement de cette publicité qu'on vient d'entendre.
Alors effectivement, ce spot est l'idée d'un jeune réalisateur, Antoine, qui a lui-même été touché par le cancer et qui voulait sensibiliser et prévenir ses congénères et ses compatriotes du danger du cancer du testicule. Il y a eu effectivement une version canadienne qui faisait une métaphore avec les couilles, qui sont en fait le nom canadien de gros cochon d'Inde. Il y avait un petit film là-dessus. Et là, évidemment, pour la partie française, on a préféré la véritable partie de pétanque et donc un vrai film de boule.
On parle rarement du cancer, encore moins des cancers des testicules. En quoi cet événement et puis ce spot publicitaire est important pour diminuer la mortalité masculine?
Alors effectivement, la Fondation Movember œuvre pour aider les hommes à vivre un peu plus longtemps. On a une espérance de vie qui est, vous l'avez signalé, inférieure à celle des femmes. Et il y a deux cancers masculins, typiquement masculins, qui impactent ça. Le cancer des testicules, en fait, impacte les hommes jeunes. Donc c'est important d'avoir ce taux un petit peu décalé et de prévenir. C'est un cancer qui se soigne très bien. Sous réserve évidemment de le prendre suffisamment en avance, donc la prévention est plus que jamais importante. Et le cancer de la prostate, qui touche des hommes un peu plus âgés, après 45-50 ans, est effectivement également un cancer sur lequel il y a une action de prévention très importante. Et comme vous l'avez dit, les hommes sont... On n'a pas encore fait notre coming out du cancer, comme les femmes l'ont fait avec Octobre Rose et le cancer du sein, et je crois que c'est important d'en parler.
Justement, Octobre Rose pour les femmes hein, qui sensibilisent autour du cancer du sein, Movember pour les hommes. Quel est l'objectif de cette opération? Qu'est-ce qui est mis en place en ce mois de novembre?
Alors, Movember, c'est effectivement une fondation internationale qui œuvre pour récolter des fonds pour la recherche médicale pour lutter contre les cancers masculins. Movember, c'est Moustache in November. Donc les femmes ont leur petit ruban rose en octobre, et bien nous on essaye d'arborer cette moustache, et au travers des réseaux sociaux, des sites web, on s'inscrit, on devient un Mobro, donc Movember Brother, ou même quand vous êtes une femme, vous pouvez devenir une Mossista, et donc quelque part adhérer à ce mouvement. Et après, évidemment, récolter des dons sur cette moustache pour lutter contre les cancers masculins.
Et combien ont été récoltés depuis la création du mouvement en 2003, vous savez?
Alors c'est à peu près aujourd'hui 50 millions de dollars qui sont récoltés partout dans le monde. En France, on est un petit peu, on contribue encore très peu à cette donation. On était en dessous du million d'euros l'année dernière, ce qui est déjà une somme considérable. Néanmoins, il y a effectivement encore en France, et c'est important de le souligner, un peu plus de 50 000 cas du cancer de la prostate qui engendre des morts. Cela, et un peu plus de 2500 cas de jeunes hommes qui sont touchés par le cancer des testicules. Mmh. Et la Fondation Movember redistribue et organise, je trouve que c'est assez intéressant, au niveau mondial, la recherche autour de ces cancers typiquement masculins, avec évidemment des initiatives en France, dont d'ailleurs Gustave Roussy avec le professeur Fizali, qui est à l'origine de l'association Sérum en France.
Et la fondation Movember a pour objectif de réduire la mortalité prématurée des hommes de 25% d'ici 2030. Vous êtes optimiste, monsieur Beaumont?
Écoutez, on va essayer de vous embêter encore un petit peu plus longtemps, vous les femmes, et effectivement de vivre plus longtemps à vos côtés.
Vous ne nous embêtez pas. Et un dernier mot, Stéphane Beaumont, quel message vous souhaitez lancer à l'occasion notamment de cette opération Movember?
Eh ben, je vais reprendre le message de la pute. C'est, les gars, faites attention à votre matériel et un petit peu de prévention. C'est vraiment le principal que vous devez retenir de ce message. Prévenir le cancer, c'est plus important que de le soigner.
Merci beaucoup Stéphane Beaumont. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la communauté Movember en France. Priorité santé touche à sa fin. Merci à mon équipe, à Cétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Merci à mon invité, docteur Patrick Lemoine, psychiatre, spécialiste du sommeil, directeur médical international du groupe Clinéa Psy, professeur visitant à la faculté de médecine de Pékin et auteur de l'ouvrage 20 milieux sous les rêves, une approche inédite des états modifiés de conscience aux éditions Robert Laffont. Et lundi, retrouvez Caroline Paré dans Priorité santé. À bientôt et bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier.